Non, non, pas pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, et comme ça fera une petite exclusivité pour Radio Courtoisie, je vais rééditer un vivant qui est rien de moins que Jean-Louis Harouel, avec son Culture et contre-culture, donc ouvrage qui avait été couronné par l'Académie des sciences. Et cet ouvrage est prévu pour, on va dire, le 1er septembre.
Donc la
Voilà,
rentrée
entre autres.
littéraire.
Exactement. Et il y a notamment aussi Henri Bordeaux qui va rejoindre aussi les éditions Maestres, donc autre académicien. Vous voyez un petit peu la ligne, beaucoup d'académies et beaucoup aussi d'ouvrages respectivement d'écrivains reconnus par l'Académie française. Mais certes, une académie d'il y a 100 ans et pas celle de nos jours. Mais non, pour l'instant, oui, pardon.
Non, sur cette question de l'historicité des évangiles, quand on regarde votre catalogue, il y a par exemple l'ouvrage du révérend Père Pegg, donc dominicain sur le thomisme. Et il y a aussi, dans le cadre des éditions Maestres, la volonté de produire un savoir assuré et donc de s'inscrire dans cette tradition justement d'une foi rationnelle et pas d'une foi purement sensible.
Oui, comment peut-on aimer ce que l'on ne connaît pas? Je pense que c'est aussi un petit peu tout l'enjeu actuel parce que malheureusement, on est de plus en plus tiré vers l'athéisme et on ne connaît de moins en moins la religion qui est la nôtre. Alors, Monsieur Dickens parlait à l'instant du Moyen-Âge. En effet, je trouve que le Moyen-Âge porte assez mal son nom parce que ça reste, à mon sens, ce qu'il y a de plus élevé depuis 2000 ans, hein, au niveau de termes de civilisation. Godefroy Court le rappelle très bien, notamment dans les origines de la civilisation moderne, où on passe par exemple abolition de la polygamie, abolition de l'avortement, abolition du divorce. De manière générale, tout est restructuré, tout est harmonisé, tout est civilisé. Et c'est vrai que la civilisation, pour moi, on ne peut pas la concevoir sans le catholicisme. Et donc, oui, l'importance aussi de retourner aux racines et de comprendre aussi d'où nous venons. Et je pense que probablement aussi l'ouvrage de M. Dickens que je n'ai pas lu peut servir à cela, c'est-à-dire comprendre d'où nous venons pour savoir où nous allons. Et Godefroy Court le fait aussi très bien.
Ça, c'est très important ce que dit
Xavier Mestre.
Xavier Metz, parce que c'est ce que, pardonnez-moi, je le cite encore, c'est ce que Marc Bloch appelait la solidarité des âges. Voilà, nous sommes solidaires des gens du passé. Et en fait, ce christianisme et le judaïsme également a cultivé cette idée. C'est la phrase que je donnais tout à l'heure de Bernard de Chartres. La fête des morts qui est créée par Odon de Cluny à la fin du Xe siècle, c'est précisément pour rendre hommage aux hommes du passé. Donc cette solidarité des âges, elle est extrêmement importante et au-delà, l'histoire est là pour dire ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. À la fin du 19e siècle, Léon XIII ouvre les archives du Vatican pour défendre l'histoire de l'Église catholique. Un siècle plus tard, Benoît XVI et Jean-Paul II défendent, et même François, je suis désolé, cher Richard, mais même
Oh
François,
non, mais je sais, vous en pensez autant de bien que moi.
voilà, eh bien, défend l'histoire tout court. Ce n'est plus l'histoire de l'Église qu'il faut défendre, c'est l'histoire. Parce que dans nos sociétés individualistes et consuméristes, eh bien, l'histoire est passée à la trappe. Or, l'histoire dit notre identité. Elle dit ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas.
Alors, pardonnez-moi Lucien, mais je vous promets que vous poserez enfin
vous en
une
prie,
question à
désolé,
Christophe
désolé.
Dickès. Mathieu Lavagna, cette solidarité entre les âges, elle apparaît aussi dans votre livre, puisque, par exemple, vous nous dites que ce qui est intéressant, c'est que des auteurs qui, eux, ne sont pas contestés, on conteste les évangiles, mais on ne conteste pas Clément, qui est écrit en 95-96, on ne conteste pas Polycarpe, qui est écrit en 120, et vous nous dites, eux, ils attestent qu'ils connaissaient 25 des 27 textes du Nouveau Testament. Vous nous dites aussi que vous nous parlez de la datation du temple comme étant une des manières précises de dater les évangiles. Il y a une, on sent... Dans le savoir que vous mobilisez, et c'est à la fois une proximité avec les pères de l'Église, avec la tradition orale telle qu'elle est reconnue par l'Église catholique, mais aussi avec tout ce que la science archéologique et la science scripturaire apportent aujourd'hui.
Oui, alors il y a effectivement deux questions que vous abordez là. Il y a la question de l'attribution et la question de la datation, que je distingue bien dans le livre. Par rapport à l'argument du temple que vous mentionnez, c'est effectivement un argument pour penser que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ont été écrits avant 70. Parce que dans ces évangiles, il est rapporté que Jésus annonce que la destruction du temple de Jérusalem va avoir lieu. Or, ces évangélistes ne mentionnent pas que cette destruction a eu lieu. Ils se contentent de retranscrire la prophétie de Jésus qui l'annonce. Or, on sait par des sources indépendantes que cette destruction du temple a eu lieu en août 70. Et donc, on peut imaginer que si les évangélistes écrivaient après 70, ils se seraient fait une joie de retranscrire que la prophétie de Jésus avait bien été réalisée. Ça aurait été un excellent moyen pour eux de mettre en avant la messianité de leur héros. Or, ils ne le font pas. Donc, la meilleure hypothèse explicative de ça, c'est que les évangiles peuvent être datés avant 70. Et ça, c'est juste un des quatre arguments que je développe pour une datation pré-70. Et après, en ce qui concerne l'attribution, vous dites très bien, il y a certains auteurs qu'on ne conteste absolument pas à l'attribution, Clément de Rome, Polycarpe, Inès d'Antioche, mais il se trouve que pour les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, aujourd'hui, vous avez certains universitaires, même dans le monde catholique, hein, qui enseignent dans des universités catholiques, qui remettent en question le fait que les évangiles aient été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. On nous parle de communautés anonymes à la fin du 1er siècle qui auraient rédigé ces textes, mais on refuse l'attribution traditionnelle des évangiles. Et en fait, quand on regarde au plan historique à la fois les sources externes et les éléments internes aux évangiles, on se rend compte que c'est une thèse qui tient pas du tout la route, que l'attribution des évangiles est absolument unanime. On a sept sources dans les 150 ans après les évangiles qui nous disent qu'ils ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a Papias en l'an 125, Saint Justin Martyr en l'an 150, le fragment du Muratori en l'an 170, Saint Irénée en l'an 180, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien. Donc ça fait une quantité de sources convergentes qui écrivent dans des régions différentes, qui se mettent tous d'accord. Et donc il y a une unanimité jusqu'à l'an 400. Avant l'an 400, personne, pas même les ennemis, n'ont osé remettre en question que les évangiles avaient été attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc cette idée d'anonymat des évangiles, c'est inexistant dans nos sources externes et dans tous nos manuscrits. Contrairement à l'Épître aux Hébreux, où là, l'Épître aux Hébreux, il y a un vrai dissensus chez les premiers chrétiens, chez les pères de l'Église, où il y a des disputes. Certains disent c'est Paul, d'autres disent que c'est Silas, d'autres disent c'est Barsabbas, tout ça. Donc, mais pour les évangiles, il y a une unanimité écrasante. Et donc dans le livre, je donne à la fois ces arguments des pères de l'Église et aussi des éléments internes aux évangiles qui nous font penser que c'est bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui les ont écrits.
Oui. De toute façon, ce que vous dites est fort éclairant. Et en histoire, Christophe Dicques a effectivement commis une remarquable thèse sur Jacques Bainville, puis c'est également professeur d'histoire. Tout le baratin sur les évangiles, reconstruction a posteriori, un événement qui n'a pas eu lieu, finalement, un événement totalement anecdotique qu'on a coloré de légende pour des obscures raisons de pouvoir politique ou d'influence, en fait, vous le trouvez pour tous les événements. Et a fortiori pour les événements les plus marquants qui ont bouleversé l'histoire et dont tout le monde s'est aperçu. En histoire, aujourd'hui, toutes les thèses qui s'écrivent quasiment, c'est pour dire l'événement n'a pas eu lieu, c'est une reconstruction a posteriori, l'événement n'a pas eu lieu, c'est une reconstruction a posteriori, et ça sert à des intérêts politiques obscurs. Et tous les perroquets répètent ça en boucle, etc. Et donc, de fait, ça atteint les évangiles, événement, la vie et la mort du Christ, qui est probablement un des mieux documentés de l'histoire antique, comme ça atteint absolument tous les événements, un beau jour, on vous dira que la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, que c'était un genre d'affrontement perlé, un épisode parmi d'autres, d'une espèce de longue série de mutations dont personne ne s'est aperçu, et on le dit d'absolument tout, je vous assure. On le dit d'absolument tout.
Christophe Dicques.
Christophe Dicques. Le christianisme...
Vous allez enfin pouvoir lui poser votre question.
Le christianisme...
Et est-ce qu'on fait encore attendre un peu Lucien
Rabouille? Non, je lui laisse ce privilège.
La parole ne s'octroie pas. Elle se prend, cher Richard de XVI, comme l'a dit quelqu'un qu'il ne faut pas citer. Comment dire, on nous a beaucoup dit, dans notre formation humaniste, universitaire, que le christianisme était une religion d'historien en ce qu'il proposait une nouvelle conception du temps. Oui. Vous parliez de Bernard de Chartres, vous parliez de ces grands moines du Moyen-Âge. On nous présentait à l'université, ce n'était pas en l'occurrence Bertrand Schneer, mais c'était, je ne sais plus si c'était Jean-Marie Salamito ou Jean-Marie Meuglin.
L'excellent Jean-Marie Salamito.
L'excellent Jean-Marie Salamito qui reprend souvent d'ailleurs cette expression de religion d'historien dans ses cours, etc. Donc ses étudiants sont très familiers en fait de cette expression religion d'historien. En tout cas, nous parlait d'un certain Joachim de Fiore comme étant un des premiers philosophes de l'histoire. Il nous expliquait, je ne sais pas si c'était lui ou un autre, que le christianisme, non seulement était une religion d'historien, avec des sources, avec une recherche acribique de la vérité, mais proposait aussi une nouvelle conception du temps, qui était un temps linéaire, lequel allait se succéder à un temps cyclique. Est-ce que, vraiment, vous reprenez cette hypothèse d'un bouleversement temporel et historique ?
C'est page 31. Voilà. Alors, avec ses chroniques et surtout son histoire ecclésiastique, Eusèbe devient le premier historien de l'Église. Il donne aussi un sens à l'histoire, à la différence des civilisations antiques, qui en avaient une conception cyclique. En somme, Eusèbe révolutionne notre approche du temps.
L'auteur peut défendre sa thèse.
Le but secret de toutes ces émissions, c'est de prouver aux auteurs que j'ai lu leur bouquin.
Alors, Eusèbe de Césarée, alors j'irai voir Joachim de Fior, mais effectivement, Eusèbe de Césarée, nous sommes au IIIe siècle. Et en fait, Eusèbe de Césarée, pour le dire très schématiquement, est un peu à l'histoire de l'Église ce que Michelet est à l'histoire de France, ou bien à l'histoire de la République française. Et donc c'est un auteur extrêmement important. Là, je joue le rôle de passeur. Il faut lire Chronos de François Hartog, qui est un livre absolument majeur et qui montre comment Eusèbe a révolutionné la conception du temps. Qu'est-ce qu'a fait Eusèbe ? Eusèbe, il a fait ce qu'on appelle des chronologies. C'est-à-dire qu'il a pris la civilisation romaine, il a pris la civilisation grecque, il a pris la civilisation mésopotamienne, et il a mis des chronologies, en fait, les unes à côté des autres, exactement ce qu'a fait Origène avec les différentes versions de la Bible et de l'Ancien Testament. Et donc, il a fait une sorte de parallélisme historique, et ce parallélisme historique trouve un point de rencontre qu'est, ni plus ni moins, la venue du Christ. En quoi il révolutionne le temps ? Parce qu'il lui donne une dimension progressive, en fait. Alors, je mets le terme entre 15 000 guillemets, parce que la notion de progrès n'existe même pas au Moyen-Âge, et le mot de progrès n'existe pas au Moyen-Âge. Mais qu'est-ce à dire exactement ? Il s'agit, nous, en tant que chrétiens, de faire mieux demain, ce que l'on a mal fait aujourd'hui ou ce qu'on a mal fait hier. Dans quelle perspective ? Dans la perspective tout simplement de notre salut. Voilà. Le temps chrétien est un temps qui est valorisé. La révolution chrétienne, c'est qu'elle donne une valeur au temps. Elle donne une valeur au temps. Il faut utiliser son temps à bon escient, en vue et dans la perspective de son salut. Et le monde marchand va reprendre en fait cette idée, puisque le monde marchand va dire le temps, c'est de l'argent. Voilà. Oui. Exactement comme le monde marchand va reprendre cette invention du christianisme qu'est l'horloge mécanique. L'horloge mécanique, c'est Richard de Wallingford. Il faut garder le temps, il faut garder le temps dans une petite boîte pour savoir l'heure qu'il est. Pourquoi il faut savoir l'heure qu'il est ? Pourquoi le monde monastique a besoin de savoir l'heure qu'il est ? Tout simplement parce qu'il faut, il y a des temps où on prie, et il y a des temps où on se repose, et il y a un temps où on travaille. Ora et labora. Et le monde monastique est la première institution dans l'histoire à vouloir maîtriser le temps. Les heures ont été inventées par les Mésopotamiens, mais ils ne l'utilisaient pas. C'est comme l'horloge à eau, elle a été inventée par les Chinois, mais ils ne l'utilisaient pas. La première grande institution à faire du temps une valeur, c'est le monde monastique. Et je n'en déplaise aux députés LFI aujourd'hui, quand on parle de progrès, quand un député LFI parle de progrès social, eh bien, il fait comme M. Jourdain de la Prose, il fait du christianisme sans le savoir. Parce que cette notion de progrès dans le temps est une notion tout à fait chrétienne qui n'existait pas à l'époque antique, puisqu'à l'époque antique, on avait une conception cyclique du temps.
Les éditeurs vous écouteront avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on imagine mal à quel point le monde antique pouvait être indifférent au temps passé, ou même ignorant de ce que pouvait être le temps qui passe. Spengler rappelle par exemple que Thucydide situait la guerre de Troie ou l'Iliade et l'Odyssée à peut-être 100, 150 ans avant lui, et pouvait expliquer au début de la guerre du Péloponnèse qu'il s'était absolument rien passé dans l'Athènes du 4e siècle avant lui, que tout ça était en fait, etc. Donc il y avait effectivement une ignorance du souvenir et du temps, et ce que disait Christophe Dicquet, c'était très éclairant, puisque c'est non seulement une conscience du temps qui passe, une conscience du temps qui était, une conscience du temps qui s'écoule, mais même une conscience du temps qu'on doit mesurer, avec en plus effectivement des perspectives qui peuvent être optimistes, mais qui peuvent être aussi des perspectives nostalgiques, puisque à partir du XIe siècle, je crois, on cherche à rendre habitable ou commode le monde dans lequel on aimerait que le Christ revienne, et donc à ce qu'il ressemble le plus possible à la communauté apostolique des origines.
Ouais. Et ça, et on en revient à la phrase de Bernard de Chartres, nous sommes des nains. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit tout ce que l'on est aux gens du passé. Et donc, on regarde dans le passé. Et en revanche, on voit mieux que, parce qu'on a plus de savoir que les hommes du passé. Ce qui nous permet d'espérer, ce qui nous permet d'être en vie, en fait. Le christianisme, c'est étonnant, cette vitalité qu'il y a dans le christianisme. Et on en revient à la fameuse vertu de prudence, non pas la prudence, la peur, en fait. Voilà, je tiens à être prudent sur cette affaire, je tiens pas trop à avancer. Non, la prudence dans le sens de la phronesis grecque, dont parle très bien Catherine Van Hoefflen, ou bien la prudence telle que la conçoit saint Thomas. La prudence est une vertu politique dans la Florence du XIVe et du XVe siècle, et on la représente. Comment la représente-t-on ? On la représente avec un miroir, parce que le miroir permet de voir ce qu'il s'est passé dans l'histoire, mais en même temps on regarde devant afin d'avancer.
J'ai une double question, Xavier Mestre, le fait que vous alliez constamment puiser dans la littérature passée des raisons d'exister aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez justement catholique en renouant des fils qui ont voulu être rompus ? Et ensuite, j'ai une question plus archéologique pour Mathieu Lavagna.
Alors, j'ai pas bien compris votre question. Ce
qui m'intéressait dans votre catalogue, donc, qui est surtout constitué de rééditions, mais alors à part Harwell, voilà, qui est la Pax, voilà, il y a un auteur vivant brusquement qui débarque chez aux éditions Mestre, on est super surpris. Mais le fait d'aller chercher des auteurs nés au 19e, morts en 1970 pour Henri Massis, donc, et est-ce qu'il s'agit de renouer des fils qui ont été coupés par l'époque, y compris d'ailleurs dans l'enseignement catholique actuel? Est-ce qu'il s'agit de retisser cette grande solidarité entre les âges ?
Très probablement. Je dois vous dire que j'ai plutôt aussi un attrait pour cette période de manière tout à fait naturelle et depuis un certain temps. Je n'ai pas forcément vu un calcul de ma part en me disant je vais essayer de créer un lien. Je pense que le lien s'est fait tout seul parce qu'il y a en effet la rupture, je pense, de Vatican II, la révolution de 68. Et moi, mes parents sont de cette époque, donc probablement que je suis allé puiser dans ces auteurs qui permettent de refaire ce lien et ce pont entre le monde d'avant, si j'ose dire. Peut-être que je pourrais encore mieux vous répondre en vous citant un passage des souvenirs et des récits autobiographiques de Béraud. Est-ce enfin le moment de répondre à cette voix qui, dans le soir romain, me posait la troublante question ? Ma jeunesse, qu'en ai-je fait ? Qu'en avons-nous fait, nous tous qui, sans le savoir, vivions les derniers beaux jours ? Ce qu'on fait des heures dont on ne connaît pas le prix. Nous ne savions pas, nous ne pouvions pas savoir que la terre allait tourner plus vite. Tout ce que nous aimions allait disparaître, et nous fermons les yeux. Un grand vent soufflait sur nos chères images, et nous buvions en levant notre coupe à l'avenir. L'avenir. Qui donc eût osé croire qu'un quart de siècle allait l'enfanter dans la misère et la mort ? On ne croyait pas à la guerre. En France, on n'y croit jamais. Ce vieux peuple de braves et contents de sa terre, et de bon cœur, en ce temps-là, il eût heurté son verre à la chope du voisin. S'il entendait à l'horizon un piétinement d'armée en marche, il se disait « Voici la saison des grandes manœuvres ». Et pour mieux dormir, il se retournait sous son édredon. Et je pense en effet que nous vivons, d'une certaine manière, un peu les derniers beaux jours. Et je crois que c'est important aussi de renouer à notre passé, comprendre en quoi il s'inscrit dans notre présent. Et en effet, c'est peut-être aussi pour ça que vous soulignez cette espèce de lien, mais je pense qu'il y a en effet beaucoup de points communs entre l'époque peut-être des années 30 et la nôtre, qui est entre autres l'apostasie.
Merci beaucoup Xavier Mestre. Alors, sans transition, ma question pour Mathieu Lavagna, vous avez parlé avec beaucoup de science, donc justement de la manière dont il y a une science historique sur la datation des évangiles, sur la manière de qualifier les manuscrits, sur la critique interne qui permet de bien voir qui dit quoi et de résoudre les contradictions apparentes. Mais il y a aussi toutes ces preuves fascinantes que nous apporte l'archéologie, et avec, par exemple, en 2002, un ossuaire en craie datant du milieu du 1er siècle est découvert. Il porte l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, Yaakov bar Yosef, acquis dit Yeshua » et confirme bien les sources historiques déjà existantes, ou encore le fait que Ponce Pilate a été confirmé en 1961, parce que dans un escalier près du théâtre de Césarée Maritime figure l'inscription « Ponce Pilate, préfet de Judée ». Donc, est-ce que le croyant que vous êtes, l'apologète que vous êtes, est conforté par ces espèces de vérités surgies des pierres et du sable ?
Alors, oui, c'est intéressant parce que les données archéologiques découvertes au XXe siècle et début XXIe siècle, ça vient renforcer le fait que les évangélistes étaient suffisamment bien informés pour produire un discours et un récit crédible, parce qu'ils sont ancrés dans des éléments spatio-temporels, ils nomment des personnages, ils nomment des structures, des bâtiments qu'on a pu retrouver derrière, la synagogue de Capharnaüm, les piscines de Siloé, les piscines de Bethsaida, des choses comme ça. C'est des éléments précis, avec des détails précis, que on est capable de confirmer ensuite. Et donc, ça donne de la crédibilité à, s'ils ont pu nous rapporter des détails aussi précis sur la vie de Jésus et son entourage, a fortiori, on peut leur faire confiance sur d'autres choses, notamment sur les paroles qu'ils nous rapportent de Jésus. Je vous donne un exemple très frappant, mais au 19e siècle, début 20e siècle, les modernistes se moquaient de la piscine de Bethsaida qui est mentionnée en Jean 5,2 en disant que c'est sûrement une allégorie. Les cinq portiques dont parle saint Jean dans Jean 5,2, Jean nous dit « il y a là à Jérusalem une piscine à Bethsaida avec ses cinq portiques ». Et on a certains modernistes comme Alfred Loisy qui disaient « oh, mais ces cinq portiques, ça doit être un symbole des cinq livres de la Torah ou des cinq piliers de la Torah ». Et en fait, il y avait toute une tentative de relire ça de manière symbolique a posteriori. Sauf que bingo, l'archéologie moderne a vraiment découvert l'existence de cette piscine de Bethsaida avec ses cinq portiques. Et donc, ça montre bien que Jean disait vrai, que c'était pas juste une invention allégorique. Et donc, en fait, je pense que les historiens doivent faire attention quand ils essayent de projeter de manière rétrospective du symbolisme pur dans les évangiles, alors qu'on constate au contraire qu'ils nous rapportent des éléments très factuels. Et on pourrait continuer avec Luc qui nous parle de Lysanias et qui a été découvert sur une pierre tombale après, ou saint Paul qui nous parle d'un Érasme trésorier de la ville, ou le fameux Galion, le proconsul, qui est mentionné dans Acte 18, ça a été retrouvé lui aussi. Enfin bref, il y a une quantité de découvertes archéologiques qui confirment de jour en jour la fiabilité historique des évangiles.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'il y a quatre, en fait, évangélistes. Et de voir que ces hommes, en fait, on aurait pu avoir un seul. On aurait pu, l'évangile de Marc par exemple, Papias dit que Marc a écrit sous la dictée de Pierre, voilà. Et en fait, c'est pour cette raison d'ailleurs que Pierre n'est quasiment pas cité dans l'évangile de Marc, parce qu'il se met en retrait. Pourquoi il se met en retrait? Parce qu'il sait qu'il a trahi le Christ et qu'il l'a renié trois fois. Et on aurait pu très bien, ou l'Église aurait pu très bien dire, bon ben voilà, c'est Marc, parce que Marc est proche de Pierre et Pierre c'est le patron, donc voilà, c'est le chef de l'Église, et donc on va retenir uniquement cet évangile. Ben non, l'Église en a retenu quatre, c'est ce que disait, c'est ce principe d'évangile synoptique. Il y a trois évangiles qu'on peut mettre en parallèle, alors avec des différences, des petits détails. Voilà, il n'y a pas un texte, hein, et c'est ça qu'il y a d'intéressant, et je pense qu'il y a même de rassurant pour la foi sur les faits qui sont décrits, sans compter qu'il y a, voilà, ce qu'on appelle la source Q, dont nous n'avons pas de texte et qui peut-être un jour sera retrouvée dans quelques jarres du désert, et qui permettront là aussi de compléter ce que nous avons.
Il y a effectivement le charlatanisme de la thèse mythiste, à qui Jean-Marie Salamito a jeté un sort dans un ouvrage paru en 2017, je crois, ou 2018, concernant l'historicité de Jésus. Mais dans ce grand débat historiographique qui, effectivement, obsède l'Europe depuis le 19e siècle, il y a aussi des positions plus modérées, notamment ceux qui distinguent Jésus, Yeshua, personnage historiquement attesté, très bien attesté finalement, du Christ, Christos. Que penser de cette distinction? Un Jésus de l'histoire, qui est prédicateur, dissident juif, etc., d'un Christos qui, lui, aurait été effectivement une construction mythique, ou alors la superposition d'un concept, comme le dit Onfray, sur une réalité historique.
Et ben, ça, c'est une question à laquelle Mathieu Lavagna peut répondre.
Alors, moi, je pense que c'est une fausse distinction, en tout cas au sens où l'entendent les exégètes modernistes, sous-entendu le Jésus de l'histoire, le fameux Yeshua. On peut en dire que un ou deux paragraphes, ça tient sur une page, mais tout le reste, en gros, tout le reste des éléments détaillés dans les évangiles, ses discours, ses paraboles, ce qu'il a prêché, ça, on peut pas vraiment savoir si ça appartient à l'histoire. C'est le Jésus de la foi, et donc en fait, cette distinction est souvent employée par des historiens qui cherchent à minimiser l'historicité factuelle des évangiles. Si on pense que le christianisme est vraiment une religion de l'histoire, en fait, il faut soutenir que le Jésus de la foi, quelque part, est identique au Jésus de l'histoire. C'est-à-dire que les paroles de Jésus dans les évangiles, ses enseignements, ses revendications sur lui-même, les revendications de sa divinité, sont des affirmations qu'a émises le Jésus historique sur lui-même, sur sa personne. Et ça, moi, je pense que c'est défendable. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce livre pour défendre la fiabilité robuste des évangiles. Et donc, si on admet ces arguments, bah, la conclusion de ça, c'est que les paroles qui sont attribuées à Jésus dans les évangiles sont bien les paroles que Jésus a affirmées, qu'il a dit, qu'il nous a enseignées. Et donc, on peut avoir un fondement solide à la foi chrétienne. Donc, moi, je pense qu'il faut bien faire attention à pas tomber dans ce piège de trop vouloir distinguer le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi.
Oui, ou alors on serait obligé de remettre en cause aussi le César de l'histoire et le César
De la religion des
de la
Romains.
guerre des Gaules, et voilà, en considérant que tout ce qu'il raconte dans la guerre des Gaules, dont vous rappeliez, Christophe Dickès, que le premier des manuscrits date du 9e siècle après Jésus-Christ, donc ça faisait bien longtemps que Jules César avait disparu et la moitié des Gaulois avec lui, on est obligé de considérer qu'il y a des arguties qui sont de pure mauvaise foi. Dans votre travail, Xavier Mestre, vous n'essayez pas aussi, vous aussi, de retrouver en fait une vérité et de considérer que ces vieux auteurs, qu'il s'agisse d'Henri Massy ou de Dom Pegg, n'ont pas, eux, réussi à engranger un savoir réel qu'il vous appartient d'offrir à nouveau aux lecteurs d'aujourd'hui? Ah, on ne vous entend plus. Ah, vous avez dû couper votre micro, Xavier.
Voilà, je suis là, pardonnez-moi. Je suis toujours étonné de manière générale à quel point en France, en Suisse, plus largement peut-être en Europe, il y a des discussions sur le fait de savoir si Jésus ou non a existé, si le vrai Messie, s'il a ressuscité, etc. Et je me demande si les civilisations islamiques se posent la même question sur Allah ou si les civilisations bouddhistes se posent la même question sur leur Dieu. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est propre visiblement aux Européens et peut-être de plus en plus. Donc, je suis oui, un peu surpris. Pour moi, c'est une évidence. Et je réédite ces ouvrages pas forcément pour attester de l'existence ou non de notre Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt pour justement se reformer à cela, que ce soit le thomisme, que ce soit plus largement je dirais un certain esprit classique, hein, parce que tous ces auteurs du début du XXe étaient vraiment des esprits classiques, des choses qui nous sont complètement étrangères de nos jours. Donc voilà un petit peu ma modeste mission à travers ces éditions. Je dirais une des phrases qui définit peut-être ce projet, cette maison, c'est en effet de travailler pour les générations à venir. Alors, ça peut paraître évidemment prétentieux à premier abord, mais je crois, comment dire, comme un patrimoine, comme certains objets, etc. Je crois que la bibliothèque ne doit pas faire exception à un héritage et à une transmission. Et c'est ce que, à travers les éditions Mestres, je tâche de faire.
Je ne voulais pas dire que tous vos ouvrages étaient
Là.
apologétiques eux-mêmes ou faisaient en sorte d'attester le Christ. Je parlais plutôt de la vérité. Voilà, Henri Massy
Oui.
établit des choses sur l'Occident, Pegg établit des choses sur la métaphysique, et voilà. Donc c'était plutôt ces vérités-là qui sont tangibles. Je crois que vous aviez une question
Mais
ou une
ce que disait
remarque,
Xavier
cher
de Maistre
Abboud.
était intéressant. Les débats autour de l'historicité du Christ disent peut-être quelque chose du christianisme, ce qui le distingue d'autres religions, notamment de l'islam. Puisque vous avez quand même des religions qui vous disent, voilà, la révélation est un fait constatable, objectif, et qu'il suffit de connaître, et devant lequel il suffit de s'agenouiller. Là où le christianisme nous dit au contraire, il y a un chemin. Il y a un chemin, il faut comprendre, il faut, comme l'a dit Christophe Dickès, il faut chercher, c'est une enquête. D'ailleurs, la conversion n'est pas forcément un fait que l'on constate comme ça, comme le soleil. C'est une imitatio Christi. C'est quelque chose de très long, très compliqué, de démarche, justement, de comprendre qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, comment l'imiter. Et finalement, est-ce que ça n'a pas du sens, finalement, que ces questions soient spécifiques et originales au christianisme? Cette idée que, dès lors que la révélation n'a pas eu lieu en public, devant un smartphone, elle n'est donc pas un fait constatable, objectivable, elle est quelque chose devant lequel il faut adhérer, qu'il faut quelque part aller chercher, et qui pose un défi à la raison. Puisque le christianisme n'est pas une religion, justement, comment dire, de l'évidence, mais une religion de la foi, une religion de l'adhésion. Et que forcément, forcément, la nature même de la révélation, son caractère, comme vous l'avez dit, historique, donc d'un fait que l'on construit, d'un fait que l'on cherche suppose effectivement cet engagement, cette volonté et cette part de libre arbitre.
Christophe Diquet et ensuite Mathieu Lavagna.
Non, j'ai rien à ajouter. Je suis tout à fait d'accord. Je m'arrête quand même sur cette idée d'enquête. L'enquête, c'est voilà, histoire en grec, qui a donné le mot historien, histoire, c'est précisément l'enquête. Et j'allais dire, pour revenir à la recherche textuelle, il est très classique. Pourquoi, par exemple, on date Saint Paul comme étant, comme faisant partie des premiers textes chrétiens dont nous avons la certitude, alors que les premiers écrits datent du IIe siècle? Parce que Saint Paul parle d'un contexte, d'une période, parle de choses extrêmement concrètes et qu'on situe précisément au premier siècle. Et c'est le rôle de la critique historique d'avoir, de chercher et d'aller au plus vrai. Personne ne remettrait en cause l'existence de Saint Paul qui écrit dans les années 50 sur sa conversion, sur son chemin, etc.
Alors Mathieu Lavagna, sur cette manière de définir la foi catholique comme étant une foi de l'adhésion du cœur, et il y a dans tous vos ouvrages, puisque donc les Évangiles disent-ils vrai aux éditions Arthège n'est pas votre premier ouvrage d'apologétique, il y avait Soyez rationnel, devenez catholique, qui était paru aux éditions Marie de Nazareth en 2022. Vous êtes, vous, pour une démonstration de la vérité de la foi catholique qui fait d'abord la part belle à toute la preuve historique, on le voit avec votre ouvrage « Les évangiles disent-ils vrai », à toute la preuve métaphysique sur l'existence d'un principe divin. Autrement dit, l'adhésion cordiale, ça vient une fois que la raison a bétonné toutes les raisons, justement, de croire.
Alors, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses, et ça, c'est très précis dans le Concile Vatican I. Évidemment, la foi reste un acte libre de la volonté, on ne va pas forcer les gens à avoir la foi, mais l'Église enseigne quand même que la raison humaine a la capacité de, un, démontrer l'existence d'un Dieu créateur, et de, deux, de montrer l'origine divine de la religion chrétienne par des arguments purement rationnels. Donc, je vais vous citer ici plusieurs textes du Concile Vatican I qui sont très peu connus aujourd'hui chez les théologiens, mais qui sont très importants, et qui d'ailleurs sont repris dans le catéchisme de l'Église catholique actuelle au numéro 156. Citation, « Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi soit conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés de preuves extérieures de sa révélation, à savoir des faits divins et surtout des miracles et des prophéties qui, en montrant de manière impressionnante la toute-puissance de Dieu et sa science sans borne, sont des signes très certains de la révélation divine adaptée à l'intelligence de tous. » Et il y a même un canon dans le Concile Vatican I qui nous dit que si quelqu'un dit que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude, ni servir à prouver efficacement l'origine divine de la religion chrétienne, qu'il soit anathème. Donc ce qu'enseigne l'Église dogmatiquement, c'est que les miracles, en principe, certains d'entre eux peuvent être connus avec certitude et qu'ils peuvent servir à prouver efficacement l'origine divine de la religion chrétienne. Et moi, le texte que je trouve le plus fort là-dessus, ça se trouve chez Pie XII, donc Pie XII qui écrit en 1950 son encyclique Humani Generis, qui répond aux erreurs modernistes, voilà. Et il nous dit « Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. » Donc en fait, l'apologétique que je défends, elle n'a rien de nouveau en fait, c'est l'apologétique traditionnelle de l'Église qui a été défendue par des grands théologiens comme Garrigou Lagrange et bien d'autres. Et donc oui, en fait, aujourd'hui, les catholiques modernes ont tendance à être dans une conception totalement fidéiste de la foi, en mettant la raison de côté, alors que l'Église, non, enseigne qu'on peut montrer l'existence de Dieu et l'origine divine de la religion chrétienne par des arguments rationnels. Et après, une fois qu'on a montré que voilà, c'est vrai, libre à chacun d'adhérer par un acte libre de la volonté et de dire « Seigneur Jésus, je vous aime, je vous remets ma vie, je veux vous servir ». Ça, c'est quelque chose qui relève d'un acte de la volonté. Et les arguments ne peuvent pas forcer notre volonté personnelle. Voilà, ça, à la fois, reste toujours un acte libre.
Christophe Diquet, vous citez d'ailleurs un texte de Pie XII à la fin de votre ouvrage « Le christianisme, une religion d'historien ».
Oui, c'est-à-dire que en dehors de mon texte, avec l'éditeur, on a souhaité publier les grands textes sur l'histoire de Léon XIII à nos jours. Ce que dit Mathieu Lavagna est extrêmement important. Vous savez, Michel Zinck, académicien, donc, dit que le plus grand danger du christianisme serait son anti-intellectualisme. Le plus grand danger du christianisme serait son anti-intellectualisme. Et là, aujourd'hui, mais alors, c'est pas le cas de Radio Courtoisie, mais vous avez des revues qui sont catholiques, qui sont chrétiennes, et qui ne font pas la place, qui ne donnent pas la place à l'intelligence. Or, c'est absolument essentiel. Enfin, au-delà de Fides et Ratio de Jean-Paul II, au-delà de l'œuvre magistrale du cardinal Ratzinger devenu pape Benoît XVI, cette question des rapports de la foi et de la raison est un élément essentiel de l'histoire du christianisme et qui se pose quasi immédiatement au IIe siècle. Que fait-on de la raison grecque ? Voilà. Que fait-on de la raison grecque ? Et il y a eu des chrétiens qui ont dit « Mais nous, on n'a pas besoin de la philosophie, on n'a pas besoin de la raison, on n'a pas besoin de l'intelligence, seule la foi nous suffit. » Eh bien non, la majorité, en fait, des intelligences de l'époque a dit « Mais non, nous devons réfléchir, nous devons éclairer notre foi par l'intelligence. Nous devons prendre les choses... Tout ce qui est bon doit être pris, c'est ce que dit Saint Paul, je le cite très mal. Voilà. Mais cette intelligence de la foi est essentielle et se pose. C'est pour cette raison que, pour reprendre votre question sur le protestantisme tout à l'heure, c'est pour cette raison qu'il faut aussi prendre les pères de l'Église, aussi prendre la tradition. Parce que la tradition est précisément là pour dire l'intelligence de la foi. Et encore une fois, voilà cette phrase de Michel Zinc, le plus grand danger du christianisme, ce serait de qu'il refuse l'intelligence chrétienne. On a besoin de cette intelligence chrétienne. Moi, je suis abasourdi par l'absence de connaissances historiques du monde ecclésiastique. Andrea Riccardi le signalait, le problème des autorités de l'Église, c'est qu'elles n'ont pas aujourd'hui de profondeur historique, d'intelligence historique. Elles ont la philosophie, elles ont la théologie, mais elles n'ont pas l'intelligence de l'histoire. Or, dans la crise que vit le christianisme, eh bien, si vous n'avez pas la profondeur de l'histoire dans le sens que je donnais tout à l'heure, à savoir la prudence, c'est-à-dire le fait de regarder derrière pour mieux avancer devant, eh bien, l'Église est condamnée en quelque sorte à rester dans la crise du temps présent. Elle doit aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il lui faut la profondeur historique. Non pas par relativisme. Oh, au fond, l'Église est déjà passée par des crises. Elle en sortira. Non, ça serait de la paresse intellectuelle. Là, l'histoire nous dit, nous oblige. L'histoire, c'est un discernement de l'intelligence. Si on enseigne l'histoire, c'est pour apprendre à réfléchir. Et pour apprendre à réfléchir, là aussi, dans une perspective blochienne, Marc Bloch disait que l'histoire n'est pas une science du passé, elle est la science du temps présent, afin précisément d'envisager l'avenir. Et il le disait de manière très classique, comme le disait Cicéron, l'histoire est maîtresse de vie et de vérité.
Alors, Xavier Maistre, je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que j'entends parler de cet éloge de l'intelligence, de cet éloge de l'histoire, de cette nécessité en fait, de s'appuyer sur la raison, de revenir invinciblement à votre catalogue, où on a l'impression justement qu'à chaque fois, ce qui vous a tenu à cœur, c'est non seulement le goût que vous avez pour les années 30, les académies et les gens récompensés par les académiciens, mais c'est aussi le fait qu'il y a à chaque fois, dans vos ouvrages, quelqu'un qui exprime ce qu'il pense être la vérité, qui le dit avec foi et conviction, mais aussi avec raison, voilà, qu'il s'agisse d'Henri Massis, de Pegg ou de Paul Bourget, donc voilà, qui le fait en tant que romancier et non pas en tant que philosophe, il y a à chaque fois l'idée d'une prise de position qui n'essaie pas d'être purement impressionniste et qui n'essaie pas de taper uniquement au corps, mais qui fait appel à l'intelligence en espérant d'ailleurs déclencher ensuite un mouvement cordial, comme les ouvrages de l'abbé Grimaud sur futurs époux et futures épouses.
Oui, passionnant ouvrage.
Oui, en effet, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit, vous avez en effet raison, c'est l'idée. Je reviens peut-être toujours à ça, hein. C'est en effet ce qui m'obsède, si j'ose dire, c'est en effet la question de l'apostasie, du fait qu'on a abandonné le bon Dieu, qu'on a décidé de plus s'intéresser à lui, d'aller vers d'autres choses. Bourget, par exemple, en parle très bien dans Le Disciple, hein. Il remet en cause la responsabilité, par exemple, du maître, en ce qui concerne toutes les théories dites scientistes ou de psychologie de l'amour, etc., toutes ces questions du 19e, donc aussi sur la responsabilité concernant évidemment la trame du roman. Vous citiez à l'instant en effet Peg. Bah oui, j'ai peut-être une citation en effet qui peut être aller dans l'autre sens sur l'existence de Dieu, parce que en effet c'est quelque chose qui doit sans cesse être prouvé, alors que pourtant bon, on a quand même le Saint-Suaire hein, qui est quand même un objet, quelque chose de physique, et qui est je crois l'objet le plus étudié au monde. Alors sur l'existence de Dieu, le père Peg nous dit la chose suivante. De raison, il n'en est qu'une, au fond. C'est la nécessité où nous sommes d'en appeler à Dieu pour expliquer toute chose. Sans lui, rien ne serait. Voilà toute la raison. Encore est-il indispensable de la bien voir, d'en saisir la force probante. C'est à cela que va servir la mise en forme de raisonnement ou de syllogisme. Ce raisonnement, ce syllogisme, ou plutôt cette série ordonnée de raisonnement ou de syllogisme, les voici dans toute leur rigueur. Il s'agit de montrer que si Dieu n'existait pas, pardonnez-moi, rien n'existerait. Le premier raisonnement, procédant en pleine évidence, sera celui-ci. Ce qui n'existe que par Dieu n'existerait pas, si Dieu n'existait pas. Or, tout ce qui existe et n'est pas Dieu n'existe que par Dieu. Donc, si Dieu n'existait pas, rien n'existerait. Alors, c'est peut-être en effet compliqué comme ça à saisir, peut-être à l'oral, mais c'est aussi peut-être la première thèse de saint Thomas d'Aquin, la première voie, c'est-à-dire celle du mouvement. Tout ce qui bouge est mis en mouvement par un autre. Donc, il faut donc remonter à un premier moteur immobile à l'origine de tout. Et ce premier moteur, c'est évidemment Dieu. Dieu trinitaire.
Mathieu Lavagna, dans votre ouvrage donc, d'apologétique de 2022, Soyez rationnel, devenez catholique, vous mobilisez ce genre de preuves métaphysiques, et notamment vous mobilisez une preuve musulmane, si je ne m'abuse.
Alors, musulmane, c'est parce que le terme argument du kalam, c'est un terme islamique pour dire le discours, et en fait, il y a des théologiens musulmans au Moyen-Âge, comme Al-Ghazali, Al-Kindi, qui ont repris cette preuve, mais en réalité, on retrouve les premières traces de cet argument chez Philopon, je crois qu'au VIe siècle. Et donc, au Moyen-Âge, ça a été repris par certains penseurs musulmans, d'où le nom kalam, et ça a été aussi repris par un docteur de l'Église, qu'on oublie un peu, Saint Bonaventure. Saint Bonaventure défendait l'argument du calame. Saint Thomas d'Aquin n'était pas d'accord avec cet argument. Il en traite dans la question 46 de la Prima Pars, si ma mémoire est bonne. Et j'ai une réponse à Saint Thomas d'Aquin dans le livre là-dessus, fondé sur les travaux en métaphysique moderne chez les théologiens qui ont développé d'autres arguments pour défendre le calame, dont certains sont thomistes, hein, Robert Kuntz, Alexander Pruss, par exemple, qui sont des anglo-saxons et qui ont beaucoup travaillé dans l'amélioration de cet argument. Mais oui, l'idée du calame, c'est de montrer que, en fait, l'univers ne peut pas avoir un temps infini dans le passé, et que philosophiquement, on peut montrer que l'idée même d'un univers éternel, d'un temps infini dans le passé, mène à des absurdités métaphysiques, à des contradictions. Et donc, dans le livre, je donne trois ou quatre arguments pour argumenter la finitude du passé.
Cette finitude du passé, c'est aussi justement l'un des arguments que peut développer un chrétien qui considère qu'il a une religion d'historien. Vous dites à un moment donné dans votre livre, donc, que pour les antiques, il y avait un temps circulaire, que les chrétiens viennent lui donner un sens. Mais vous dites aussi que c'est presque quelque chose qui est propre au Nouveau Testament. À un moment donné, j'étais étonné que le Nouveau Testament seul apparaisse comme étant le temps de la preuve, le temps des faits, par le temps de l'histoire. Voilà, le christianisme est donc une religion d'historiens, et ceci dès les origines à partir d'une tradition orale, le témoignage d'un groupe de juifs de Galilée sur Jésus et la nouvelle alliance entre les hommes et Dieu. Mais l'Ancien Testament aussi est en fait une tradition orale, une tradition historique, est aussi un ensemble de faits. Là aussi, avec d'ailleurs l'archéologie biblique qui vient... on a peut-être du mal à retrouver
en fait, la culture juive,
l'arche de Noé et
la culture statue de l'exégèse.
Voilà.
Exactement. Je crois, voilà, je citais le cardinal Ratzinger qui s'était attaché tout au long de son existence à remontrer les liens. Je dis bien remontrer parce que contrairement à l'image que l'on peut en avoir, eh bien, le Moyen-Âge cherche dans la tradition judaïque des éléments d'explication. Donc il y a cette profondeur et on voit d'ailleurs, encore une fois, cette notion de progrès que je mets vraiment entre guillemets à partir de l'Ancien Testament. Sauf que le christianisme a une dimension universelle et que cette dimension universelle constitue un des autres piliers de sa nature que n'avait pas le judaïsme. Donc vous avez tout à fait raison, et voilà, le monde de la Bible est une revue qu'on trouve en kiosque. Moi, j'achète régulièrement parce que justement, elle part sur les traces archéologiques et sur les traces exégétiques des textes et puis des différents monuments que l'on peut découvrir. C'est absolument fascinant et inépuisable dans l'intelligence que de se pencher sur cet espace à la fois géographique mais aussi temporel qu'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Alors, Mathieu Lavagna, une dernière question, sauf si Lucien vous vouliez...
Oui, c'était un peu la question que j'avais essayé de formuler quand on parlait justement du rapport qu'observait le protestantisme à la révélation chrétienne. Souvent, l'on fait de la révélation chrétienne la révélation par un livre qui tombe du ciel, comme ça, comme si un voyageur d'avion l'avait jeté parce que ça l'avait ennuyé.
Ça, c'est le Coran.
Et oui, enfin, on va essayer de le dire par périphrase, parce que pour n'offenser personne. Mais en effet, le mode de révélation de l'islam en fait à proprement parler de religion du livre. C'est-à-dire, c'est l'ange Gabriel qui dicte quelque chose d'être à être à Mahomet. Et finalement, est-ce que l'opportunité de cet ouvrage n'est pas de resituer le christianisme dans une religion, justement, de l'histoire, dans une religion qui n'est pas une religion du livre, comme on l'entend souvent, mais exactement, dans une religion, comme vous dites, d'historien, et finalement de montrer que on dissocie souvent la tradition orale de la Bible, la tradition orale ayant ajouté des choses qui n'étaient pas dans la Bible pour garnir le christianisme de saint froufrou, d'ornement, etc., alors qu'en fait, un tel livre nous explique que finalement, la Bible est dans la tradition orale, et finalement qu'il n'y a pas de Bible sans Église.
Oui, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que le terme de religion du livre est un terme islamique, voilà, et quand il est repris même par des papes, c'est absolument hallucinant parce que ce n'est pas du tout le cas. Le Nouveau Testament n'est pas une religion du livre, le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole. Voilà, la parole, le logos, la foi, et donc ça se parle, ça se dit, ce n'est absolument pas, ce n'est pas seulement ancré dans un texte, d'où l'importance de la tradition des premiers siècles et l'importance en fait des pères de l'Église. Donc, et l'histoire, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, à la différence des historiens antiques, les historiens chrétiens ont voulu se faire humbles, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au service de la théologie. Et en fait, tous les premiers historiens, Eusèbe jusqu'à Pierre le Mangeur, sont au service de la théologie. Et c'est absolument fascinant de voir. Et donc, sont au service de la foi, ni plus ni moins. Et étant au service de la foi, ce faisant, eh bien, ils apportent leur critique, ils apportent une intelligence critique. Au Moyen-Âge, il y avait plusieurs sens que l'on donnait à l'écriture. Voilà, il y avait on parlait déjà de symboles, mais le premier sens, c'est le sens littéral, c'est la critique historique, et c'est exactement ce que fait Pierre le Mangeur, l'historien par excellence, qui en exégète essaie de comprendre les faits, les commente, et met dans l'ensemble des marges de la Bible toute une série de commentaires afin de mieux comprendre le contexte historique de l'époque, et il le fait en historien, et encore une fois avec cette quête de l'idée de vérité, c'est-à-dire qu'on voit le christianisme, vous voulez, comme une sorte de courant idéologique qui veut absolument imposer son idée, mais en fait l'historien, encore une fois, se fait humble parce qu'il veut défendre une idée divine, voilà, le Dieu incarné, et mentir serait une forme de faute, serait une forme de péché. Et c'est pour cette raison que, j'en reviens à mes hagiographes du début de l'émission, c'est pour ça que les hagiographes, certes, ils mettaient en valeur les événements positifs des hommes, mais s'ils les mettaient en valeur, c'est précisément pour aider le chrétien que vous êtes, Richard, à devenir meilleur, tout simplement.
C'est surtout à Lucien qu'il faut vous adresser.
Taisez-vous, Richard.
Merci beaucoup Christophe Dickès. Évidemment, toute cette réflexion sur le travail d'historien des chrétiens à travers les siècles n'a de sens que si la matière même du christianisme, autrement dit les évangiles, sont une réalité. C'est ce que vous réussissez à prouver, Mathieu Lavagna, avec ce résumé de plusieurs dizaines d'années de controverses sur l'historicité des évangiles. C'est ce que vous essayez évidemment d'atteindre, Xavier Mestre, à travers une bibliothèque qui va sans cesse s'augmentant de bons ouvrages, y compris de Béraud, quelques réserves que Lucien ait pu en faire. Merci beaucoup Christophe Dickès, avec le christianisme, une religion d'historien, d'avoir redit à quel point donc c'est une religion de parole, de critique, de débat, une religion inscrite dans le temps. Et il me reste 30 secondes à peine chez Salvatore, pour vous dire, chers auditeurs, que je n'ai pas fait d'appel au don, tellement étais-je perturbé par ma bourde initiale, mais que, bien sûr, si jamais vous allez sur soutenir.rc.fr, vous pourrez, après avoir acheté tous ces excellents ouvrages et souscrit à tous ceux que Xavier Mestre vend aux éditions Mestre, vous pourrez peut-être nous laisser une petite obole, car nous en avons bien besoin. Vous êtes 1,5 million à nous écouter chaque semaine, vous n'êtes même pas 20 000 à nous donner. Donc voilà, je tends moi aussi ma sébile pour que vous puissiez y déposer quelque chose. Merci, et demain, c'est Arthur de Vatrigan qui vous recevra dans Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.